podcast.com. Essaye ça.
Moi aussi, je suis capable de mettre de la musique plate avant le show! En fait, je savais pas si ça allait être plate ou si ça allait être pas pire. Ça s'appelait Epic and Powerful Metal Music Christmas. Ben, écoute, j'ai déjà entendu plus métal comme musique de Noël. OK, c'était mauvais. C'était pas aussi mauvais que les super tunes d'ascenseur que nous sort Bourbon quand il est là. Ça se qualifie pour un combat des musiques d'intro de mal contre Bourbon. Oui, exactement. C'était mon intention. Je pense que j'ai bien réussi. Je sais pas si c'est mon browser qui est en retard. Je me vois pas à l'écran. J'imagine que vous me voyez, vous autres. On va faire une petite un petit refresh. Ouais, on a eu une bordée, puis là, bon, on fait des nouvelles avec ça, comme si c'était jamais arrivé avant, puis là, c'est l'enfer. Sauf qu'il y a quand même quelques petites quelques petits inconvénients à cause de ça. 100 000 foyers qui ont été plongés dans le noir et le froid hivernal pendant cette tempête. Je pense qu'il en reste encore pas mal à repluguer, on va dire, quand même. Non, pas de Mariah Carey. Oui, oui, non, elle est loin. Quand c'est moi, Mariah Carey, jamais loin. Quand c'est moi qui fait la mise en onde, elle est loin. Hein, maudit Mariah, je peux pas vous dire à quel point elle est loin. Donc, 100 000 foyers québécois étaient plongés dans le noir ce matin à cause de pannes électriques. C'était pas une si grosse tempête que ça pour mettre le réseau à terre. Ça se peut-tu qu'Hydro-Québec, ça sent nice à la bombe? Il me semble qu'avant, on voyait pas autant de pannes électriques en cas de petits inconvénients climatiques. J'ai pas l'impression que le réseau, en tout cas, est en parfait état. Je sais que dans plusieurs pays, on enfouit les fils. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça ici, à place de mettre ça dehors en proie aux verglas et aux neiges lourdes qui ont fait tomber des branches, beaucoup dans la région de Montréal? C'est ce qu'on dit. La neige lourde sur les fils et sur les branches, ça casse les fils, ça casse le réseau. 106 000 ménages sans courant électrique, ça c'était la situation de ce matin. J'imagine que ça s'est arrangé pas mal, mais bon, là on fait des articles sur la météo, puis comme quoi il y a eu, attends, 15 cm de neige! Je sais qu'à des endroits il y en a eu plus, là au-dessus de 20 cm, mais en général c'est plus entre 10 puis 15 cm de neige. Ben écoute, c'est l'hiver, hein? Montréal, c'est 15 à 25. Montréal, il y en a eu pas mal. Gatineau, 10 à 20. 10 à 15, 10 à 20. Joliette, 10 à 25. En tout cas, c'est sûrement parce que c'est la première qu'on capote comme ça. Mais j'espère qu'ils vont pas manquer d'électricité toutes les fois qu'il va neiger, hein? ça serait dole un peu. Ici à Châteauguay, un oiseau se pose sur une branche et bouffe plus d'électricité. Hi Master, écrime, je te plains. Ici, c'est pas pire. Ici, on se toffe pas mal. 29 cm au centre-ville à Montréal. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. 25 en moyenne pour tout le reste, peut-être Montréal, mais en tout cas, je vois beaucoup de 10 à 15 cm. Ben, c'est ça. C'est l'hiver. C'est commencé. Officiellement, je pense que. C'est quand, hein, l'hiver? Parce que, tu sais, il y a une date là, pour chaque saison. Là. Est-ce qu'on est officiellement en hiver? Je le sais pas. Moi, quand il fait frais, j'appelle ça l'hiver. Puis quand il fait chaud, j'appelle ça l'été. Je me casse pas de baisser plus que ça. Ah, tu sais, parlant de... Tu sais, j'ai mis de la belle musique de Noël. Moi, je suis pas très, très Noël. Je pense que vous l'avez deviné. Mais... je comprends quand même. Puis là, maintenant que je vis dans une situation plus familiale, ben là, je peux pas vraiment éviter Noël comme je le fais depuis des années. On a fait le sapin de Noël, toute la patente. Puis moi puis le plus vieux, on s'est occupé de la crèche. Faudrait que je prenne une photo. On a pris des bonhommes de Star Wars, puis on a mis ça en dessous de l'arbre. Avec une maquette que le plus vieux avait fait pour l'école de une arcade. Fait que à place d'être une étable, c'est une arcade. À place de Jésus, on a Luc. On a Darth Vader. On a, en tout cas, des bonhommes de Star Wars, puis des vaisseaux qu'on a accrochés, suspendus en dessous de l'arbre. Noël, on en fait ce qu'on veut aujourd'hui, hein. Puis la sangsue. Noël, c'est pas Noël sans une bonne grosse dinde déshydratée. Non, mais il y a moyen, hein, de faire de la dinde, tu sais, qui soit pas trop déshydratée. Mais là, c'est parce que là, il y a eu une motion pour défendre Noël à l'Assemblée nationale. On est rendu là. Je suis pas du genre là, de dire, hey, les maudits woke, là, ils veulent canceller Noël, tout ça. Pour vrai, moi, j'ai rien contre Noël. C'est censé être une fête religieuse. Ça en était une. Je peux pas dire que ça en est encore une. D'ailleurs, tout ce qu'on fait à Noël n'a rien à voir avec la religion. Malgré ce qu'en pense la commission des droits de la personne. Parce que, selon eux, la Commission canadienne des droits de la personne, les jours fériés de Noël et de Pâques sont discriminatoires à l'égard des minorités religieuses. Puis c'est drôle, moi, j'ai l'impression que ça, c'est un problème de... C'est quelque chose qui fait réagir des Blancs d'origine probablement chrétienne qui ont peur de déranger ou qui sont un peu trop intégristes sur le sur l'égalité puis tout ça. Parce que honnêtement, moi, j'ai l'impression que la plupart des groupes ethniques puis des groupes religieux différents de chrétiens, ils s'en sacent pas mal. Que ce soit un jour férié, ils prennent en congé. Puis je serais curieux de qu'il y ait un sondage dans les communautés religieuses autres que chrétiennes pour voir si ça leur dérange vraiment que Noël et Pâques soient des jours fériés. Traditionnellement, c'est la religion catholique, c'est la religion dominante au Québec. Le christianisme était dominant au Canada. Aujourd'hui, je pense que on est plus laïque que religieux. Puis je pense que la plupart des gens qui fêtent Noël, ils s'en crôlissent de Jésus. Non, mais c'est pas vrai, là. Tout le monde sait que Jésus est pas né le 25 décembre, là. En tout cas, si vous le saviez pas, je vous le dis, là. Même l'Église a aucune espèce d'idée de la date de naissance de Jésus, si jamais il a existé, parce que ça non plus, c'est pas prouvé. Il n'y a pas de référence historique de l'époque de Jésus qui parle de Jésus. Si vraiment il y avait un gourou qui déplaçait des foules incroyables, il y aurait sûrement des historiens de l'époque qui en auraient parlé, puis non, ça a même pas fait les nouvelles dans le temps, fait que ça m'étonne que ça fasse les nouvelles aujourd'hui. Il va-t-il avoir un spécial Noël du jour du Seigneur? Je sais pas, faudrait demander au prédicateur. Je vais y en parler. Frank, t'es de mauvaise foi. J'ai juste pas de foi. j'ai l'organe, mais j'ai pas la terre intellectuelle. Moi, au nombril, je suis athée, puis moi, Noël me dérange pas. Je vais prendre le jour off. J'irai même jusqu'à prendre off toutes les fêtes et toutes les religions. Je suis inclusif de même. Ah, moi aussi! Moi, je suis athée, là, puis j'ai le goût là, de respecter toutes les communautés religieuses, puis de prendre off à Hanouka, puis ouais, toutes les fêtes religieuses, Ramadan. Ouais, je commencerai pas à pas manger le jour. Mais si on peut avoir des congés, on va y prendre. On va y prendre. À place de vouloir enlever les jours fériés là, de Noël, rajoutez-en d'autres pour les autres religions. Moi, j'aurais pas de problème avec ça. Mais tu sais, la Noël a plus tellement de saveurs religieuses. Tu sais, ils iraient à messe de minuit. Là, aller à la messe les dimanches, les autres jours que Noël. Il n'y a pas grand monde là. Là, tu sais, c'est pas mal. Le public est rare et âgé. Tu sais, c'est parce que c'est une fête qui... dont la vocation religieuse appartient à une autre époque. Là, je pense que il n'y a pas beaucoup de catholiques pratiquants au Québec. Là, t'sais, pratiquants qui vont à la messe. Il y en a qui vont à Noël, puis c'est la seule fois qu'ils vont y aller de l'année. Je trouve qu'on veut trop insister sur le caractère religieux de Noël du côté de la Commission des droits de la personne, alors que ça en a plus vraiment, là, tu sais. Puis de toute façon, il n'y a rien, là, ce qu'on fait à Noël qui a rapport avec Jésus puis avec le christianisme. Le sapin n'a aucun rapport avec ça, là. Tu sais, le sapin de Jésus, hein. Rappelez-vous, là, dans Luc 14, 12, où Jésus dit en décorant le sapin, « Vous ferez ceci en mémoire de ma naissance. » Mais non, c'est pas dans la Bible, c'est nulle part. C'est une fête païenne qui s'appelait Yule. Puis, tiens, je pense que je vais écrire un petit texte là-dessus, ça pourrait être intéressant. Je l'ai fait pour Pâques, je l'ai fait pour l'Halloween. Puis, c'est pas mal ça. Ouais, la meilleure affaire relative à Noël, c'est ciné-cadeau. C'était ça dans le temps, avant Internet. Maintenant que les films sont disponibles quand on veut, on dirait que c'est moins intéressant. On n'attend plus le temps des fêtes pour les voir. Si tu veux voir un vieux Lucky Luke, tu vois, sur YouTube, puis il est là. Mais ouais, c'est pas mal. Fait que là, ils ont fait une motion... la Chambre des communes pour protéger Noël de la dangereuse Commission canadienne des droits de la personne qui des fois, j'ai l'impression, se cherche des combats, là, cherche à exister dans les médias. Là. Ah, on dit que la commission dit la discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. Ouais, sauf que le colonialisme, tu sais, c'est beaucoup l'Angleterre et la France, puis ces deux pays-là sont chrétiens, tu sais, traditionnellement, on va le dire comme ça. Fait que, tu sais, pour vrai, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment essayer de faire un scandale avec rien, puis de se trouver un combat là où il n'y en a pas. Là, j'ai l'impression que... Clovis, une motion. J'aimais beaucoup les faits mission. Je vais le faire une fois, juste une fois pour toi. Une motion. Hein, ça sonne presque pareil. Le chef du bloc dit que selon la commission canadienne, la simple célébration de Noël, le sapin, la famille, la musique, les cadeaux étaient du racisme systémique. C'était assez niaiseux, là, pour vrai. Là. C'est systémique, ouais. Dans notre système, traditionnellement, on souligne la fête de Noël. Avant, c'était pour des raisons religieuses. Maintenant, je dirais que c'est pour des raisons commerciales. Puis des as-tu déjà fait du doublage, Frank? J'ai déjà fait ça. Une fois, c'était un de mes premiers contrats en sortant de l'école de radio. C'était épouvantable. Il fallait que je double une publicité en anglais d'une pelle à neige Ergolite. Je pense que c'était comme ça que ça s'appelait. Puis, c'était une pelle. En fait, je pense que c'était juste une poignée que tu pouvais mettre après à moitié de ta pelle. Puis là, ça avait une deuxième prise. C'était vraiment de la marde. Puis, il avait fallu que je traduise ça puis que je double ça. En fait, c'était déjà traduit, mais c'était mal traduit. Puis, je doublais ça. Fait que je faisais la voix d'un monsieur qui parle en anglais avec les lèvres qui fit pas tant que ça. Puis, c'était épouvantable. J'ai jamais fait de doublage après ça. Je m'étais déjà amusé à faire... À refaire les voix sur des extraits vidéo, là, comme dans le temps de... Je sais pas si vous vous rappelez de ça, à Musique Plus, Cinéma Tweet. Ils prenaient des scènes de films, puis ils refaisaient les voix, puis c'était complètement ridicule. J'ai déjà fait ça pour le plaisir. Ça n'a pas été diffusé nulle part. On faisait ça, moi, puis un de mes amis, puis on montrait ça à nos chums, puis c'était pas mal ça. C'était bien avant ma carrière de radio. En fait, j'étais adolescent, on prenait deux vidéos, puis notre micro, c'était des écouteurs pluggés dans... Pour ceux qui ne savent pas, un écouteur puis un micro, c'est la même affaire, là. C'est juste le sens qui change. branches. Fait que si vous branchez les écouteurs dans une prise de micro, vous parlez dans les écouteurs, ça va agir comme un micro. On faisait ça avec deux vidéos, deux VCR, un qui enregistrait juste la vidéo de la cassette originale, puis on rentrait le son à part. On faisait record, play record en même temps. Puis on s'amusait à faire ça. Mais c'est vrai que du doublage, je pourrais m'amuser à en refaire. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Donc, ben c'est ça. Le chef conservateur Pierre Poilievre, le futur premier ministre majoritaire du Canada, si on en croit les sondages, puis on y reviendra, a renchéri sur le thème de Noël en critiquant Trudeau et sa taxe carbone. C'est-à-dire, Pierre Poilievre en a profité pour faire de la petite politique populiste et démagogique, puis il a dit de Justin Trudeau, va-t-il cesser de s'en prendre aux Canadiens pour qu'ils puissent profiter des beaux cadeaux et même d'une dinde et d'un repas chaud pour Noël cette année? Oui, parce que à cause de Trudeau, on sera pas capable de se payer une dinde sèche cette année, puis des beaux cadeaux, parce que Trudeau nous appauvrit, alors que Poilievre, lui, va nous enrichir, hein, du jour au lendemain, on va avoir nos chèques de paye, ils vont presque doubler, hein, parce que les impôts vont tous disparaître. Puis, tu sais, grâce aux conservateurs, on ne sera plus imposé sur rien, puis aucun service ne sera affecté. T'sais, ça, c'est la chanson des conservateurs depuis toujours, là. C'est, oh, on ne réduira pas les services, mais on va baisser les taxes, puis gnagnagna, puis gnagnagna. Puis Trudeau, lui, il a embarqué dans le jeu, puis... Les répliques de M. Trudeau, chef conservateur, se portaient, elles aussi, à la défense de Noël, évidemment, pour rester dans le sujet, affirmant notamment que le climato-scepticisme du Parti conservateur compromet les futurs Noël blancs. Fait que, selon Poilievre, les Canadiens pourront pas fêter Noël parce qu'ils n'auront pas les moyens à cause de Trudeau. Puis, selon Trudeau, les prochains Noëls seront des Noëls bruns parce que il tombera plus de neige à cause de Poilievre. C'est pour vrai, là, les gars, là, arrêtez, là. C'est une vraie joke. Je trouve ça très comique. Il y a personne qui rentre à job à Noël, peu importe leur religion. Ouais, puis je pense qu'ils sont tous bien contents. Puis en fait, ceux qui fêtent pas Noël, il y a des commerces qui sont ouverts à Noël, des dépanneurs, tout ça. Puis on est bien contents qu'il y en a qui se foutent de Noël puis qui travaillent pareil. Non, mais ne serait-ce que tradition, là. T'sais, on n'efface pas l'histoire. On révisionne pas l'histoire à son goût puis selon les modes du jour, là. Je pense pas qu'il est obligatoire le 25 décembre dans chaque foyer canadien de commémorer la fête de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que Noël, c'est une fête commerciale d'abord, familiale ensuite. Je pense que la Commission des droits de la personne se cherche des causes, là. Essaie d'exister avec des scandales en essayant d'inventer des scandales là où il n'y en a pas, là. J'ai jamais entendu de représentants de groupes ethniques ou de minorités religieuses se plaindre contre les fériés de Noël et de Pâques. Là, t'sais. Pâques, c'est la fête du chocolat, puis Noël, c'est la fête des cadeaux. Il n'y a plus grand saveur religieuse, il n'y a plus grand signification religieuse à ces fêtes-là. Ça a évolué autrement. Alors, revenez-en à la commission. Puis, faites-les, vous autres, à Nuka, là, ça vous fait plaisir. Si vous vous sentez plus égalitaire, puis pas de trouble avec ça. Je vous ai parlé un petit peu de sondage. On en a un au fédéral puis au provincial. On va s'amuser avec le fédéral puisqu'on est là-dedans. Préparez-vous là, un prochain gouvernement conservateur puis majoritaire à part de ça. Parce que Pierre Poilievre a accentué son avance sur Justin Trudeau, selon le dernier sondage qui a été fait. C'est Angus Reid, je crois. Non, c'est Abacus. Abacus, selon eux, et leur sondage auprès de 2417 Canadiens entre le 23 et le 28 novembre, le Parti conservateur récolte 42% des intentions de vote. C'est beaucoup, ça, 42, là, quand il y a 5 partis, là. Bon, OK, on s'entend que le Parti vert sera jamais vraiment, une menace, là, mais quand même, ils ont presque le double du Parti libéral. Le Parti libéral est à 23%, puis le Parti conservateur à 42. Je pense pas que ce soit tant que ça un engouement pour le conservatisme ou que Pierre Poilievre est si bon que ça, puis il est si hot que ça, avec sa coupe de cheveux de curé qui sort du séminaire, puis ses propos qui sont à peu près 30 à 40 ans en arrière sur le goût du jour, là, sur la société, là. Évidemment, les conservateurs, c'est pas mal tout le temps des arriérés là-dessus, là, des arriérés culturels, tiens, on va le dire comme ça, là. C'est la nature même du conservatisme, là, les bonnes vieilles valeurs. Lui, il fête Noël, Jésus, là. Vous pouvez être certain, là, que lui, il va aller se recueillir avec sa famille, ils vont aller à la messe, ils vont faire toutes les patentes traditionnelles religieuses, puis ça, c'est pas, il a le droit, c'est correct. Mais je pense pas que ça représente beaucoup de Canadiens. Je pense que les gens sont surtout écœurés d'avoir le même gouvernement depuis si longtemps. C'est ça. C'est les cœurs antites aigus contre Trudeau et le Parti libéral. Puis c'est toujours comme ça. Le Parti libéral remporte la plupart des élections au fédéral. Puis quand le monde sont écœurés parce que ça fait 2, 3, 4 mandats en ligne, ça change. On change pour changer. Fait que, tu sais, Pierre Poilievre, il faudrait pas trop qu'il soit. Qu'il se sente comme un messie qui est en train de révolutionner la politique canadienne. Ben non, tu fais juste partie du cycle, mon Pierre. Toi ou un autre, toi, Harper, avec sa gang de moonistes, puis son opus DI, puis... Mais n'empêche que je pense qu'on va y passer. On n'aura pas le choix de faire au moins un mandat avec les conservateurs. Puis d'habitude, on se tanne plus vite des conservateurs que des libéraux. Fait que peut-être que le Parti libéral devrait peut-être commencer à songer à trouver un autre chef pour les prochaines élections. Pas les prochaines là, mais les autres d'après. Les prochaines sont perdues. Que tu mettes Trudeau ou n'importe qui, je pense que le Parti libéral va aller dans l'opposition pour un mandat, et ça, c'est inévitable. Ça aurait été le fun d'avoir peut-être un parti conservateur un petit peu moins arriéré, mais écoutez, la droite monte pas mal, elle a monté beaucoup aux États-Unis, puis nous autres, gourde au pouvoir, ça va être laid. Hey, bonne Boston Pat. Il est encore là, ce crétin-là? Jacques Gourde. Oh, lui, là, la dernière fois que je... pour vrai, j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui, à part que quand on a légalisé le cannabis, il capotait, là, tu sais, il était tellement arriéré sur cette question-là, qu'il connaissait tellement pas le sujet, il comprenait tellement rien. Tu sais, je me rappelle plus ce qu'il avait dit. Si quelqu'un peut me trouver ça serait vraiment drôle. Il s'est élevé en chambre pour dire « Ouais, ben c'est ça, là, pis là, le cannabis, là, pis là, les jeunes, ils vont... On va trouver des jeunes morts avec des seringues dans la gueule, tu sais, ben là, j'exagère, là, mais c'était... Pas tant que ça, tu sais, c'était tellement là, les propos de quelqu'un qui a jamais vu ça de sa vie, du pot à part dans un film, puis que pour lui, prendre du pot, c'est comme prendre de l'héroïne, puis l'alcool, c'est pas une drogue. Il y a vraiment, tu sais, cette mentalité, c'est un arriéré, c'était vraiment le fun. J'ai parlé avec Jacques une heure au téléphone au début de la pandémie. Il m'a téléphoné parce que je lui avais suggéré une question en chambre. Mais quelle question tu lui avais suggéré, Boston Pat? Je veux savoir. Donc, pour le PCC, c'est 3% d'augmentation en 10 jours. C'est quand même, ça paraît. Pendant ce temps-là, le Parti libéral a encore reculé de 1% pendant ces 10 jours-là. Le NPD, troisième, éternel troisième. Le NPD, on va se dire, c'est mort en même temps que Jack Layton. Là, je veux dire, ils ont eu leur heure de gloire, puis leur superstar est décédé, puis... Mulcair, qui est arrivé après, n'a pas réussi à maintenir l'engouement, puis Jack Meeting n'est pas capable non plus. C'était la vague orange, a été un feu de paille, a été un coup de foudre entre Jack Layton et le peuple canadien, puis c'était pas envers le parti néo-démocrate. C'était vraiment Jack qui avait réussi à monter son parti comme ça, puis maintenant qu'il n'est plus là, ben le parti retourne à sa place, c'est-à-dire éternel troisième, 19% d'appui. Après ça, c'est le Bloc québécois, 7%. Évidemment, c'est concentré au Québec, là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Albertains qui aient manifesté des intentions de vote pour le Parti québécois. Mais tout le monde a reculé d'un pour cent, sauf le parti conservateur de Pierre Poilievre qui a monté de 3%. Au Québec, le Bloc québécois est en tête, par exemple, 32% des intentions de vote. C'est une belle remontée parce que c'était moribond pas mal. Plusieurs étaient en train de les enterrer. Moi-même, ma pelle ronde n'était pas loin. Là. Mais 32% de vote, c'est sûr que avec une montée de conservateurs, c'est comme notre façon, nous autres, de se défendre. Là, c'est comme le jet d'encre de la pieuvre. Tu arrives un conservateur, ah, pff, Bloc québécois. On leur pitch une... Un petit nuage de Bloc québécois, là, puis hey, attention, là, au Québec, on a encore un poids. D'ailleurs, le Bloc québécois a déjà été l'opposition officielle. Hey, imaginez quelqu'un, là, dans le fin fond là, de son rang à Saskatchewan, là, il regarde les nouvelles en caressant son fusil, là. Hey, mais ça, Bloc québécois, opposition officielle! Hey, pour vrai, ils devaient mal le prendre, eux autres. Ça devait être tough de voir le Bloc québécois, parti qui représente une province, se ramasser à l'opposition officielle au fédéral. Ça devait être chiant, puis cette pensée-là me réjouit pas mal. pas que je méprise le rest of Canada, là. Mais tu sais, ne serait-ce que par... Moi, je ne suis pas un grand patriote, là, mais ne serait-ce que par chauvinisme. Je trouvais ça drôle. Donc, Bloc québécois en tête au Québec, 32% des intentions de vote. Parti conservateur, 28. Parti libéral, 25. C'est pas mal plus chaud, là. Tu sais, le Parti libéral et conservateur sont au coude à coude, mais les deux sont en dessous du Bloc québécois. Ça, c'est intéressant. Puis, le NPD est à 9% d'appui au Québec. C'est plus bas qu'ailleurs. Surtout en Ontario. En Ontario, le Parti conservateur est aussi au sommet avec 42% d'appui. Les libéraux, 29%. Le NPD est à 19%. Tu sais, l'Ontario ressemble pas mal. Le sondage ontarien ressemble au, et dans les maritimes aussi, ça ressemble beaucoup au sondage fédéral. Dans l'Ouest, évidemment, ça, c'est pas une grosse surprise, là, c'est le Parti conservateur qui est all the way, là, 61% des intentions de vote s'en vont pour l'espèce de curé à lunettes qui est Pierre Poilievre. En combinant la Saskatchewan puis l'État américain du Manitoba, qui est au Canada, mais c'est plus un État américain qu'autre chose, des fois. Le Parti conservateur est à 48% d'appui, 39% pour le NPD. L'NPD est fort dans les prairies, c'est assez surprenant. 12% seulement pour le Parti libéral de Justin Trudeau. Colombie-Britannique, Pierre Poilievre, 45% des intentions de vote. Le deuxième, c'est Jagmeet Singh, c'est les néo-démocrates avec 26%, Justin Trudeau à 15%. Donc, je pense qu'on peut commencer à faire notre deuil. Puis ça, en fait, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont pleurer le départ de Justin Trudeau, mais il y en a beaucoup qui vont pleurer l'arrivée de Pierre Poilievre. Puis c'est ça qui est dommage. T'sais, on se vante, t'sais, on regarde les Américains, bon, ils ont juste deux partis. Ouais, ben, nous autres aussi. Pierre, c'est Milhouse. Ouais, c'est comme Milhouse, mais sans Bart, tu sais, c'est comme Milhouse avec la drive de Bart, là, tu sais, il est capable quand même d'être... Il est pas mal plus leader que Milhouse, tu sais. Faut lui donner ça. Puis, il impressionne bien du monde quand il répond de façon arrogante en bouffant une pomme. Mais, non, je pense que là, c'est pas que les gens vont pleurer Justin Trudeau, c'est qu'ils vont pleurer Pierre Poilievre. Parce que, pour vrai, on a deux choix, là. Parce qu'il n'y a jamais un parti... qui réussit à menacer sérieusement soit le Parti libéral ou le Parti conservateur. Le pouvoir s'échange toujours entre ces deux-là depuis la Confédération. Au Québec, ça a été ça longtemps. Hein? C'était libéral québécois depuis les années 80, libéral, Parti québécois, Parti libéral, Parti québécois. Mais la CAQ est venue changer la donne. Puis François Legault a été un des premiers ministres les plus appuyés de la population, mais là, son étoile est en train de pâlir. Hein? Il est arrivé une couple d'affaires récemment qui lui ont nui. Puis on va en parler tout de suite après la pause, parce qu'il est ennemi.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Ouais.
Mousse de nombril dit, il est bien fin, Jagmeet, mais le Canada est trop raciste pour élire ce gars-là. Il faudrait qu'il change de chef pour monter. Malheureusement, je pense que tu as raison. En fait, je suis pas sûr que c'est une question d'origine ethnique. Je pense que ce serait pas impossible pour un Indien de devenir premier ministre, mais je pense que le turban fait peur à bien du monde. Il y a beaucoup d'ignorance. Il y en a qui font pas la différence entre un sikh puis tout ce qui peut porter un turban sur la tête ou tu sais c'est fait que je pense que oui effectivement mais ça serait vraiment une mauvaise raison de quitter la chefferie. Ça serait niaiseux, mais Colin, malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent « avec que je vote pour être Tamoul », puis il doit en avoir de ça, là. Je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui se disent ça, tout simplement, puis qui écoutent peut-être même pas qu'est-ce qu'il y a à dire, puis qui se soucient même pas des politiques de son parti, puis ça s'arrête là. « Mais là, ouais, pas voter pour Tamoul », puis ça existe, il y en a, on en connaît tous, on en rencontre tous, moi je peux pas dire que j'en côtoie, parce que... quand je rencontre quelqu'un puis il me sort des affaires racistes, je m'arrange pour plus voir puis côtoyer cette personne-là. Fait qu'il en reste plus beaucoup autour de moi, genre zéro. Mais ça veut pas dire qu'il en existe pas, quand même. Fin du trudeauisme, ouais, ça va être ça. La fin de l'ego s'en vient aussi, possiblement. Moi, je pressens des changements aussi. Quand Justin quittera... j'espère qu'on ne peut le revoir en politique comme son père a fait. À date, il suit pas mal les traces de son père. Il était une espèce de superstar, Justin. On peut pas y enlever ça, là. Il a réussi à être une superstar internationale. Il y a eu un petit peu de Trudeau-manie. Peut-être pas autant que pour son père, mais quand même. Au Québec, c'est comme je disais, ça commence à aller mal pour François Legault. Le taux de satisfaction à l'égard de son gouvernement a baissé de 16 points en 3 mois. On est rendu à 31% d'appui ou plutôt de satisfaction envers François Legault. Le sondage a été réalisé du 24 novembre au 1er décembre. C'est très, très frais. 61% des Québécois interrogés sont insatisfaits. On dit que 40% des personnes sondées désapprouvent fortement sa performance. 21% modérément, puis il y a 8% d'indécis, c'est-à-dire qu'il n'écoute pas une nouvelle. en septembre, François Legault était 6e au rang du palmarès, parce que là, il se ramasse à être dernier hein, dans le palmarès des premiers ministres de concours de popularité. Là, c'est pas mal le moins populaire au Canada, dans sa province. Par contre, pis c'est une méchante débarque parce qu'il était haut. Au début de son deuxième mandat, il y a un an, François Legault était au sommet de ce palmarès-là. Il y avait 57% de Québécois qui approuvaient sa performance. Ça a déjà été même plus que ça. Attendez, j'ai ça quelque part. Au printemps 2020, il était à 77% d'appui. Mais tu sais, il faisait le bon père de famille, il faisait des points de presse à tous les jours, on le voyait beaucoup, il rassurait les gens, il faisait des petites blagues. Je pense que ça, c'était... Alors, il faudrait que tu recommences les points de presse, Legault. Là. Parle des Kings. Puis du troisième lien. Non, je pense qu'il n'y a plus intérêt à paraître trop devant les caméras. En tout cas, pas plus qu'il n'en faut. Évidemment, avec la grève des employés de l'État, la subvention des Kings qui s'en viennent à Québec, le troisième lien qui a fini dans les toilettes, c'était un cafouillage incroyable. Il a perdu beaucoup de son prestige, on va le dire comme ça. Ça fait pitié un petit peu, selon le sondage d'Angus Reid, là, ça commence à faire dur. Il est à 31%, là. Puis dans la presse, on compare sa performance à Philippe Couillard, qui a eu un taux de 30% en 2018 après 4 ans au pouvoir. Lui, il a juste pris 4 ans hein, avant qu'il se fasse haïr. Tandis que Legault, il a toffé un peu plus longtemps. Mais c'est toujours comme ça. Le pouvoir, ça use. Les électeurs se fatiguent d'appuyer la même personne. On aime ça, le changement, ou plutôt, on aime ça se faire croire qu'il va y avoir du changement. D'ailleurs, à chaque élection, tous les politiciens, tous les partis politiques promettent du changement. Puis du changement, il y en a rarement vraiment. Hein? Pour vrai, je veux dire, l'État reste le même, la politique fonctionne de la même façon, la santé reste une dépense presque insurmontable. L'éducation, c'est pas changer de gouvernement qui va faire apparaître des profs dans les écoles, puis des médecins dans les hôpitaux, puis faire apparaître des lits, puis il y a pas grand-chose qui change pour vrai quand on change de gouvernement. Mais bon, tu sais, on aime ça changer, puis sauf qu'au Québec, on a d'autres alternatives que le Parti conservateur. Je dirais même que le Parti conservateur n'est même pas une alternative. Surtout que, tu sais, il y a eu une petite vague conservatrice, là, avec la pandémie, avec la lutte contre les mesures nazitaires. Puis, tu sais, Éric Duhaime, je pense qu'il a eu son heure de gloire, puis ça reviendra pas. D'ailleurs, son dernier vote de confiance, c'était payable. Puis je pense que Éric a plafonné, puis qu'il lui reste juste à descendre la pente. Puis tôt ou tard, il abandonnera ou on lui montrera la porte de la chefferie du Parti conservateur et se ramassera là un autre illustre inconnu, et le Parti conservateur va retourner dans la ruelle de la politique. Puis je pense que ça ira pas très loin. Quand on regarde les premiers ministres des autres provinces, Wabkinou Manitoba, c'est lui qui est le premier en liste. C'est le plus apprécié dans sa province. 57% de taux d'approbation. Bon, faut dire qu'ils sont en lune de miel. C'est le premier autochtone à être premier ministre. Puis, c'est intéressant. Puis, je pense que pour lui, ça va bien. Là. Pour l'instant, là, il surfe sur ce lore-là, là, sur le fait qu'il soit le premier ministre autochtone. C'est une belle avancée, c'est un beau mur d'abattu. Félicitations à lui, félicitations au Manitoba d'avoir fait ce choix-là. Puis là, je connais même pas ses politiques, là. Je suis pas la politique provinciale manitobaine, là, pour vrai. Mais je trouve que ça démontre quand même une belle ouverture. C'est fun de voir la première femme, la première femme qu'on a eue au Québec, qui était Pauline Marois, même si je déteste foncièrement cette madame-là. Puis encore plus après l'avoir rencontrée, ou plutôt interviewée à quelques reprises. Mais j'étais quand même fier qu'on ait fini par élire une femme. Fait que, qu'il soit bon ou non, je suis quand même fier du Manitoba d'avoir abattu un mur, d'avoir franchi un pas, puis de montrer qu'on est capable d'élire autre chose qu'un homme blanc au Canada à la tête d'une province. En Alberta, c'est peut-être pas prêt pour arriver, puis dans d'autres provinces non plus. En Saskatchewan, Scott Moe, 54% d'approbation. Andrew Fury, Terre-Neuve et Labrador, 48%. Tim Houston, Nouvelle-Écosse, 48%. Daniel Smith, 47%. J'ai un petit peu vomi dans ma bouche en disant son nom. David Ebay, ça se prononce-tu comme ça? Peu importe. Colombie-Britannique, 46%. Doug Ford en Ontario, 34%. Ça fait pitié un petit peu. Ça commence à baisser un petit peu dans les pourcentages. Blaine Higgs, qui ont une grosse merde. Là. En tout cas, c'est du point de vue d'un francophone, mais d'un Acadien. Moi, je ne suis pas un Acadien du Nouveau-Brunswick. Là. Mais de leur point de vue, il y a plus de raisons de mépriser ce monsieur-là qui fait tout pour faire reculer le français et faire que et essayer de faire d'amener la province d'État de province bilingue à unilingue anglophone. Là, c'est son gouvernement, son parti, puis lui-même, c'est carrément de la lutte son combat, c'est vraiment l'anglicisation du Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est faut être aveugle pour pas le percevoir comme ça. Et en queue de peloton, on a François Legault avec 31%. Hey, pour vrai, là, on est passé de 77 à 31%. Tu sais, faut pas trop nous niaiser au Québec quand on est premier ministre, parce qu'on vire de capot assez vite, puis quand on vire. On a fait passer François Legault du premier ministre le plus apprécié au plus détesté de la province. Puis là, j'exclus l'île du Prince-Édouard parce que les données ne sont pas publiées concernant cette province-là. Mais ça m'étonnerait que ce soit aussi bas que François Legault avec 31%. Ben, Je pense que François Legault peut commencer à faire son deuil, quoique on n'est pas encore aux élections. Puis comme disait je ne sais plus qui tantôt dans le chat de l'émission, il reste du temps aussi au fédéral. Là. En 2 ans, Pierre Poilievre a le temps de faire des gaffes, la personne disait dans le chat, je m'excuse, j'ai oublié qu'il disait ça. Mais Trudeau aussi a le temps de faire des gaffes, puis le populisme semble fonctionner dans la stratégie de Pierre Poilievre. Il fait son badass, son homme de fer, un peu comme Donald Trump, sans être aussi cave que Donald Trump. Puis ça, c'est l'erreur que Maxime Bernier fait, là. Quoique, je pense pas qu'il fasse exprès pour être niaiseux à ce point-là. Je pense que Maxime Bernier est sincère, puis c'est un authentique cave. Tandis que Poilievre, c'est un marionnettiste. Là. Il joue avec ses marionnettes, puis il fait ce qu'il faut pour arriver au pouvoir, puis il le fait très bien. Même si nous, il nous rejoint pas, apparemment, il rejoint pas mal de monde, puis il réussit à faire monter son parti dans les intentions de vote. Puis je pense que l'écœurantite de Trudeau aura raison des libéraux et on aura droit à un gouvernement conservateur majoritaire, puis je pressens juste des mauvaises affaires, mais en même temps, faut pas paniquer non plus avec ça. Là. C'est pas parce que le Parti conservateur se ramasse au pouvoir que les drag queens vont aller en prison le lendemain. Là. Changera pas la société du jour au lendemain, puis il va pas privatiser la santé du jour au lendemain. Puis faut pas capoter non plus avec ça. On a eu Harper. Là. Harper, c'était assez un conservateur indécrottable, pour ne pas dire sectaire. Là, c'est un petit peu un intégriste religieux, là, trip sur l'Opus Dei. Je pense qu'il est membre de l'Opus Dei, puis il a été honoré par la secte de Moon. Je sais pas s'il est membre de cette secte-là. Mais bon, tu sais, on a eu un intégriste religieux, là, puis on n'est pas mort personne, puis, tu sais, on n'a pas perdu tant d'acquis sociaux que ça. C'est certain qu'il va y avoir quelques soubresauts de conservatisme puis de bigoterie, là. Il y a certainement lorsqu'ils sont au pouvoir majoritaire, il y a certainement un député conservateur qui va tenter de ressortir par la bande quelque chose pour attaquer le droit à l'avortement. Ça sera pas quelque chose de direct, là, une attaque de front à l'avortement, parce que ça passe pas, mais il va trouver un petit moyen de détourner, d'essayer de nuire d'eux, mais je pense pas qu'ils réussissent vraiment à faire du Canada la théocratie dont ils rêvent. Ça arrivera pas. Faut pas paniquer. Puis je pense pas qu'ils vont faire plus que 4 ans non plus. Mais malheureusement, je crois qu'ils vont être qu'ils vont être majoritaires. Un gouvernement majoritaire. Ah, il y a des nouvelles qui parlent de grossophobie médicale récemment. Puis pas genre de sujet que je vais beaucoup commenter parce que je suis pas tellement versé là-dedans, mais je me reconnais un peu dans l'histoire du monsieur dont on raconte les périples dans le système de santé parce que je m'identifie un petit peu à son histoire. C'est un père de famille de Longueuil qui avait mal au ventre, puis il s'est fait dire pendant plusieurs mois par sa médecin de famille qui était trop gros, maigri. T'as le foie gras, puis maigri, puis ça va être correct. Mais tout ce temps-là, il y avait un cancer de l'intestin grêle, puis assez solide, là. Mais toutes les fois qu'il se présentait là, puis tu sais, selon ses dires, c'est pas quelqu'un qui se plaint facilement, il va pas à l'hôpital pour rien, c'est pas un genre d'hypochondriaque là, tu sais, qui voit un bouton pousser sa main, puis oh non, le cancer de la main, il y en a qui capotent, là. Puis des fois, les médecins, je pense, sont un peu prompts à conclure au scénario de l'hypochondriaque. Ça m'est arrivé à moi aussi. C'est vrai que des fois, on est traité pas mal trop expéditivement là, à l'hôpital. Donc, à toutes les fois qu'elle est là, on dit, ben là, tu perds du poids, t'es trop gros. Il mesure 5 pieds 7, puis il pèse 220 livres. Je regarde la photo, puis tu sais, il n'est pas l'air d'un obèse morbide. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui se laisse complètement aller, puis je suis pas en train de dire que les obèses morbides se laissent tous complètement aller. Tu sais, il y en a qui ont juste aucun contrôle sur leur poids, là. Mais tu sais, il a pas l'air de... En tout cas, je le trouve pas gros alarmant, là. Tu sais, il est pas pire que ben du monde. Puis je En tout cas, c'est dans son cas, c'est qu'il avait mal, il retournait, il avait encore mal, puis ils ont pas fait de test autre que « t'es trop gros, t'as le foie gras, va perdre du poids ». En mai 2021, il est allé à l'urgence à l'hôpital Charles-Lemoyne parce que les douleurs étaient trop insupportables. Ils ont fait quelques tests, puis ça avait rien montré à ce moment-là. Mais ça lui faisait encore mal. Il y avait une grosse douleur. Fait qu'il est retourné, voir son médecin de famille, premier suivi. Puis il s'est fait dire que les tests montraient qu'il y avait un début de foie gras. Je connaissais pas cette condition-là, à part que pour la volaille, mais bon. Et qu'il devait perdre du poids pour régler ses maux d'estomac. Il dit, elle me disait ça. J'y croyais plus ou moins, avoue le patient qui s'est mis à prendre des médicaments pour se soulager au quotidien. À l'automne, un autre médecin de sa clinique lui a servi le même discours. « Ah, monsieur, vous avez encore mal, mais vous n'avez pas perdu de poids. Il n'y a rien à faire. » Il a trouvé ça insultant. Il dit, « Mais il allait au rendez-vous quand même. » Il se disait des fois qu'il trouverait quelque chose. « J'ai mal. Cringe, c'est pas juste être gros, là. » Fait qu'il est allé à 4 reprises à la clinique pour les mêmes maux de ventre. Puis à chaque fois, on faisait pas passer de test. On disait, « Ben, t'es gros, maigri. Va t'en maigrir, tu reviendras. » Le 13 avril 2022, là, il était plus capable. Là, ça lui faisait trop mal. Il est allé à l'hôpital. Puis là, ben là, ils ont décidé de faire des tests. Cancer de l'intestin grêle. Ça veut dire que pendant tous ces mois-là, il aurait pu être soigné de façon préventive, ou peut-être pas préventive, mais de façon hâtive. Là, il arrête pas de nous dire les cancers, plus on les découvre tôt, plus on est capable de les traiter. Ben, il faudrait pas se faire trop niaiser avant de les détecter. Quand il était, quand il s'est rendu à l'hôpital en avril 2022, la tumeur était rendue tellement grosse qu'elle bloquait 100% de son intestin grêle. Ils ont été obligés de l'opérer d'urgence. Puis il a été chanceux dans les circonstances. La chirurgie a permis d'enlever toutes les traces du cancer. J'imagine qu'ils ont enlevé la portion de l'intestin grêle qui était problématique. Il n'y a pas eu à avoir d'autres traitements, mais Colin, ça aurait pu coûter la vie, là, cette affaire-là de « Bon, t'es gros, va maigrir, puis reviens. » Je suis pas prêt à dire que c'est. Moi, je suis pas prêt à dire que c'est de la grossophobie. Là. Moi, je pense que le problème, c'est que on est tellement surchargé dans le réseau qu'on veut se débarrasser des patients le plus vite possible. Bon, il est gros. C'est ça le problème. T'as le foie gras, va maigrir. Puis moi, j'ai vécu quelque chose de semblable à l'âge de 30 ans. J'avais des malaises au niveau de la poitrine, dans le coin du cœur. Puis quand c'est le cœur, on sait que c'est le cœur. OK? si vous avez un malaise, vous n'avez jamais eu de malaise cardiaque et puis comme un moment donné, vous dites « Ah, il me semble qu'on dirait que c'est dans le coin du cœur, mais je suis pas certain. » Si vous êtes pas certain, c'est sûrement pas le cœur. C'est peut-être juste du reflux gastrique ou bien un autre problème comme ça. Ça peut être à l'estomac, c'est presque à la même hauteur. Fait que des fois, ça peut se confondre. Mais quand c'est la patate, on le sait pas mal. Moi, j'ai fait quelques péricardites dans ma vie. Puis non, c'était pas dû à la vaccination. La première fois que ça m'est arrivé, je pense que j'avais 23 ans. On m'a donné de l'ibuprofène, un anti-inflammatoire. Et puis, ça a réglé le problème. Après 3 jours, je courais, là, tu sais. Mais par contre, ça m'est arrivé à l'âge de 30 ans. Puis c'était un petit peu plus grave. Faut dire que j'avais un rythme de vie qui était pas mal rough. Je faisais pas mal l'équivalent de 2 jobs à temps plein à la radio. Normalement, quand t'es morning man dans une station, tu fais de la radio parler, tu fais une émission par jour et c'est amplement d'ouvrage parce qu'il y a beaucoup de préparation. Pour parler 3 heures, il faut avoir lu 4 heures, il faut booker des entrevues, faire des suivis, c'est une bonne job, là. C'est une job correct, là. Il y a de l'ouvrage, là, quand t'es morning man. Donc, je faisais ça, une émission parler le matin et... j'étais en co-animation et l'après-midi, je faisais le retour parler aussi, ce qui équivaut aussi à une job à temps plein, normalement, dans toutes les stations. Mais en région, des fois, tu sais, on paye pas beaucoup d'animateurs, puis on leur fait tout simplement faire la job de plusieurs animateurs. C'était mon cas. Donc, je faisais le show du matin et le show du retour. Donc, à quoi ça ressemble la vie de quelqu'un qui fait le show du matin? Ben, tu te lèves vers 3-4 heures du matin. Tu épluches les nouvelles, tu commences à préparer ton émission, tu arrives à la station vers 4h30, 5h maximum. Là, tu prépares, tu montes ton émission, tu regardes le log, les publicités, les publicités qu'on fait en direct. Tu prépares tout ça, tu prépares tes entrevues, ton affaire pour enregistrer, puis tu comptes là, tu tout en faisant ça, tu continues toujours à suivre l'actualité parce qu'il peut sortir des nouvelles à la dernière minute avant l'émission. Puis si t'en parles pas, ben t'es en retard sur les autres postes. Fait que il faut que tu sois conscient de tout ça. Fait que t'as commencé ta journée à, mettons 4 heures. Quand une fois que t'es habitué, 4 heures, 4 heures et demie, tu te lèves. Puis là, je faisais l'émission du matin. Après l'émission du matin, vers 9 heures, quand ça termine, là, tu commences à booker soit pour le lendemain ou, dans mon cas, pour l'émission de l'après-midi. Fait que là, je book les entrevues. Puis là, je m'en vais déjeuner. J'essaie de faire une sieste de midi à 1 heure. Puis à 2 heures, je suis de retour à la station pour préparer l'émission du retour, qui est 3 heures, parler aussi. Qui demande un petit peu moins de préparation parce que souvent, tu fais des suivis puis des choses comme ça. Puis tu as prévu tes entrevues la veille ou le matin. Tu t'appelles des politiciens, des choses comme ça. Puis s'ils sont pas disponibles, tu appelles Denis Coderre parce que lui, il aime ça. Puis il est tout le temps disponible à mon époque. Puis puis là, ben, tu étais en onde jusqu'à 6 heures le soir. Puis après ça, ben, tu continues à penser à ton émission de radio. Puis tu te couches. Moi, je suivais l'actualité jusqu'à 10-11 heures le soir. Puis je me couchais vers minuit. Fait que je dormais à peu près... à peu près 5-6 heures par 24 heures en deux bouts, là, tu sais. Fait que j'avais un rythme de vie assez rough, puis je faisais des péricardites en même temps. Je m'en vais à l'hôpital de Rouyn-Noranda, et puis on me diagnostique une péricardite, on me donne des petits motrins, des anti-inflammatoires, parce qu'une péricardite, c'est l'inflammation du péricarde, qui se trouve être l'enveloppe du cœur. Et puis, je me retourne chez nous, puis là, ben... ça se calme un peu, mais oh, ça revient. Puis, tu sais, une péricardite, c'est assez incommodant, je vous dirais. Là. Tu peux pas dormir couché parce que dès que tu te penches en avant ou en arrière, ça fait un frottement sur ton péricarde puis ça fait très mal. Fait que faut que tu sois toujours à la verticale. Fait que là, je dormais assis. Puis là, j'allais dormais mes 5 heures assis. Puis là, j'allais travailler. Puis en tout cas, je faisais cette vie-là. Puis là, ben, quand ça allait trop mal, je retourne à l'hôpital. Puis là, ils me redonnent encore des ibuprofènes. Puis là, je retourne travailler. Puis après ça, je retourne à l'hôpital. Je suis allé au moins 4-5 fois comme ça. Et puis, à chaque fois, ben, dès qu'au triage, dès que t'as des malaises dans le coin du cœur, on te fait passer des électrocardiogrammes et ça confirme ton état de péricardite. Parce que c'est pas si facile que ça à détecter au stéthoscope. C'est un frottement que le médecin va entendre dans son stéthoscope, mais il est pas si facile que ça à entendre. Fait que souvent, on fait passer des tests comme ça. Puis à un moment donné, ben, rendu à la troisième ou quatrième fois, je me pointe là, je tombe sur un nouveau médecin que j'avais jamais vu. J'y raconte mes symptômes. J'ai dit, ben, je pense que je suis en péricardite parce que ça fait un mois que je fais des péricardites. Puis là, ben, je suis pas un expert, je suis pas un médecin, mais je pense que je reconnais les symptômes. Puis là, tout de suite, je vais dans sa face. Ah, bon. Elle vient de décider que je suis un hypochondriaque. Elle vient de décider que je m'auto-diagnostique et que tout ça, c'est dans ma tête. Stéthoscope, porte quelques tests. Elle m'envoie pas en électrocardiogramme. Puis elle dit, oh, je pense qu'on a affaire peut-être un petit problème d'hypochondriaque, mon petit monsieur. Hypochondriaque? Tu veux dire ceux qui s'imaginent toujours les pires maladies dès qu'ils ont un petit malaise, là, puis qui s'en vont sur Google, puis qui se diagnostiquent des cancers? Non, madame, je pense pas être un hypochondriaque. J'ai déjà eu des péricardites, puis je reconnais les symptômes. Dis-moi, on pense ça, mais gna gna gna. Elle me retourne chez nous. Ben là, moi, je suis convaincu que j'ai encore une péricardite parce que Caroline, je le sais qu'est-ce que ça fait. Puis finalement, là, ça empire parce que là, elle me donne aucun traitement. Puis les symptômes s'intensifient. Je retourne à l'hôpital une énième fois. Je sais pas. Ça devait faire 5-6 fois là, dans les mêmes 2 mois ou dans le même mois, peut-être même un mois et demi. Puis là, je tombe sur un autre médecin qui, elle, reconnaît la péricardite tout de suite. Elle dit, OK, on va aller faire un électrocardiogramme pour confirmer ça. Puis écoute, sur l'électro, c'était marqué péricardite aiguë. Là. Tu sais, c'était aiguë. Puis là, ben, elle me dit, bon, ben, je pense que je vais te garder ici pour la nuit. Puis là, moi, je suis écœuré d'être à l'hôpital. Ça fait un mois et demi que je suis tout le temps rendu là. Je dis, donc, je vais aller coucher chez nous, là. Mais je peux revenir. Elle dit, OK, je veux que tu reviennes le lendemain à 8 heures. Je m'en vais chez nous. Je mets mon réveil pour 7h30 pour l'hôpital. À 7h30, ça sonne, puis ça me réveille. Puis une maudite chance que ça m'a réveillé. Parce que je suis allé à l'hôpital, à pied comme un cave. Et rendu à l'hôpital, Je suis dans la salle de tente, debout, parce que les chaises sont prises, puis j'étais correct debout. Puis à un moment donné, sais-tu quoi, je pense que je me sens... Tombe à terre, plus de son, plus d'image. J'ai fait une tamponnade cardiaque. Fait que pendant un mois et demi, on me donnait des Motrin pour guérir une péricardite qui empirait. Puis ce que je trouve curieux, c'est que malgré le nombre de fois que j'y allais, on me faisait le même traitement. On me redonnait des anti-inflammatoires, qui est le traitement normal. Là. Je dis pas que c'est pas normal. Sauf que quand ça fait 5 fois que tu y retournes avec la même péricardite, là, ça se peut-tu que votre traitement marche pas? Puis il faudrait peut-être creuser un peu plus? Mais non, quand j'arrivais là, on se débarrassait de moi au plus vite. C'était comme, ah, péricardite, Motrin. Je vois, mais excuse, c'est parce que ça fait 3 fois que je viens, ça fait 3 fois que vous me donnez des ibuprofènes, là. Puis ça revient toujours, puis je suis toujours pogné pour revenir ici. Ça vous tente pas d'essayer de trouver pourquoi je fais des péricardites à répétition ou pourquoi, malgré les anti-inflammatoires, ça revient toujours? Non! Tiens! Prends des Motrin, va-t'en chez vous. Peut-être qu'après 2-3 fois, si on s'était attardé à mon cas puis on avait décidé de pousser un petit peu plus, on se serait rendu compte que les anti-inflammatoires, ça ne suffisait pas. Et peut-être que je me serais pas rendu à faire une tamponnade cardiaque dans le corridor de l'hôpital. Fait que là, je tombe à terre. Puis je me réveille dans une, comme dans les films, dans une civière avec des pattes de défibrillation comme collées sur moi. Je sais pas s'ils ont servi, je l'ai jamais su. Mais peut-être. Une tamponnade cardiaque, là, c'est parce qu'il y avait tellement de liquide inflammatoire entre le péricarde et le myocarde, qui est la pompe du cœur, que ça faisait tellement de pression que le cœur était plus capable de battre parce qu'il n'y avait plus de place. Et puis, je me suis réveillé comme ça dans la civière avec les néons qui passent, les médecins et les monde masqué autour de moi qui essayent de me faire survivre là, un peu en panique. Puis c'était spécial. On m'envoie aux soins intensifs. Puis là, on me faisait croquer des aspirines, on me faisait bouffer de l'ativan. Puis tu sais, j'étais en train de crever, là, pour vrai. Là. J'étais vraiment en train de mourir. Puis je le sentais des fois, c'est comme... Je suis dans le lit, au soin intensif, puis je... Oh, Caroline, je regarde ma blonde, je dis, oh, pense m'en va, là. Elle me donnait des patentes dans le soluté, je sais pas comment ça marche. Puis là, ils me tenaient comme ça, puis ils m'ont opéré d'urgence, ils m'ont mis dans la barouette pour m'amener à Amos d'urgence, puis on m'a opéré d'urgence, on m'a fait une fenêtre péricardique parce que j'étais vraiment en train de mourir. On a fait un trou dans mon péricarde pour évacuer le liquide inflammatoire et que les prochaines péricardites ne causent pas de pression puis que je meurs pas la prochaine fois. Fait que c'était une chirurgie cardiaque. Puis après ça, j'ai eu un traitement. Là, je devais manger 11 pilules pour déjeuner à tous les matins. Là, de la colchicine, puis ci, puis ça. Mais un cocktail. Là. Puis je peux vous dire qu'une chirurgie cardiaque, ça m'agane. Ça a pris des mois avant que je sois capable de fonctionner normalement. Là, de monter un escalier sans voir des étoiles puis reprendre ma vie normale. J'étais rendu un vieux monsieur cardiaque qu'il fallait que je fasse attention pour pas me lever trop vite. Puis pas... tu sais, fait que... Puis oui, j'ai failli voir la lumière au bout du hype train. Puis d'ailleurs, tu sais, pour ceux qui croient aux expériences de mort imminente puis le tunnel, ben moi, j'y étais là. J'ai rien vu. Probablement parce que je crois à rien, puis mon cerveau m'avait rien de mon imaginaire à fournir par rapport à cette situation-là. Mais tu sais, je me serais pas rendu à mourir si on m'avait traité comme il faut, puis on s'était demandé pourquoi je faisais des péricardites à répétition, puis si un médecin m'avait pas traité d'hypochondriaque alors que j'avais un malaise cardiaque dans sa face. Le but, c'était de se débarrasser de moi puis de passer au suivant. Évidemment, j'avais pas de médecin de famille. J'en ai toujours pas. Hein? Puis surtout qu'après l'opération, on me disait, là, tu vas avoir un médecin de famille parce qu'il faut te suivre. Là. T'as eu une chirurgie cardiaque. Gna, gna. Je l'ai jamais eu, ce médecin de famille-là. J'ai eu des rendez-vous après ça avec le cardiologue qui m'a annoncé la bonne nouvelle, comme quoi je n'avais aucune séquelle. Il dit, normalement, il devrait avoir des séquelles. Ça devrait être visible sur ton cœur vu que tu as fait une tamponnade cardiaque. Puis finalement, t'en as pas. Fait qu'aujourd'hui, je suis pas cardiaque, j'ai pas besoin de faire attention. Je peux me fâcher puis crier tant que je veux dans le micro. Je peux aller courir dehors puis aller pelleter sans problème. Mais j'aurais pu crever à 30 ans parce que, comme le patient qui se faisait dire qu'il était gros, je me faisais renvoyer chez nous avec une poignée de Motrin. Fait que ça me rejoint un petit peu son histoire, puis je suis pas sûr que c'est de la grossophobie. Moi, je pense que c'est de la négligence parce qu'on essaie de se débarrasser des patients, parce qu'on a trop de patients, parce qu'on est surchargé. Et aussi peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent. Puis les médecins, des fois, tirent des conclusions assez rapidement. Là. Sortez pas de termes de médicaux quand vous êtes en face d'un médecin. Parce que tout de suite, il va vous mettre dans la catégorie des hypochondriaques qui s'auto-diagnostiquent sur Internet. Là, t'sais. Puis, ouais, au moins, t'étais pas vacciné-boosté. Ben là, je le suis vacciné-boosté. Et je n'ai pas fait de péricardite depuis mes vaccins. Fait que, tu sais, je pense que s'il y a quelqu'un qui était sujet à faire des péricardites, c'était moi. Et le vaccin ne m'a pas fait faire de péricardite. Donc, ben là ça c'est quand même bien passé. Il a été opéré, on a enlevé le cancer. Mais Colin, ça, c'est quelque chose qui aurait pu tuer cet homme-là. Parce qu'on l'a renvoyé à la maison chez eux en disant, ben, t'es juste gros. Va-t'en chez vous, devenir moins gros. Puis après ça, t'auras plus mal. Je pense qu'on s'est débarrassé de lui, comme on s'est débarrassé de moi à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Lui, c'était dans quel coin? Je l'ai-tu quelque part? Mais peu importe, c'est tout le même système. L'hôpital Charles-Lemoyne à Longueuil. C'est tout le même système de santé partout. C'est tous les médecins. Je mets pas 100% du blâme sur les médecins non plus, parce que c'est vrai qu'ils sont surmenés. C'est vrai qu'on leur demande d'avoir trop de patients à gérer. Puis je pense qu'un des effets de ça, c'est que des fois on néglige. Des fois, on catégorise vite des patients dans la catégorie de c'est pas grave, de il se plaint pour rien, puis de c'est un hypochondriaque qui s'est diagnostiqué lui-même. La grossophobie, comme le racisme, ça va trop vite, s'observe, les commentaires vont vite, s'observe dans les yeux de la personne concernée et dans l'effet des actes posés. On peut avoir un acte de négligence qui a pour effet, qui a un effet grossophobe. Ma sœur aussi, à l'hôpital de Rouyn, a été opérée d'urgence pour un mal de ventre à répétition. C'est ça, tu sais, je pense qu'il y en a pas mal, plus qu'on pense, des cas de gens qui vont à l'urgence et dont on se débarrasse trop vite. Mais aussi, à la défense du système de santé, il y a beaucoup de gens qui vont à l'urgence pour rien et qui vraiment se diagnostiquent eux-mêmes des problèmes de santé qu'ils n'ont pas, puis qui vont aller nuire et retarder le traitement des patients. Fait que j'imagine qu'on essaie d'identifier ces cas-là rapidement et s'en débarrasser assez vite, là, des gens qui sont là pour rien, qui prennent la place des vrais malades. Mais faut faire attention aussi, je pense, de ne pas discréditer tout le monde qui arrive puis qui se plaignent ou qui, des fois, peuvent avoir des théories. Ou ben, je pense que, tu sais... Je pense que c'est certainement un juste milieu, mais tant que le système de santé sera surchargé comme il est là, puis ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger, on va voir des choses comme ça. Puis d'ailleurs, il y a plein de dossiers qui parlent de grossophobie ces temps-ci, notamment dans le Journal de Montréal. Mais je ne sais pas à quel point c'est répandu, mais je sais qu'on se débarrasse souvent de patients de façon un peu trop expéditive. C'est ce qui va clore l'Express pour aujourd'hui, parce qu'avec ma maudite anecdote, j'ai dépassé le temps. Il est 13h06. On se dit à demain. Salut tout le monde.
Membre de la famille H2O Web Media.